Le journal, bonjour Adrien Taufollet.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Toujours pas d'accord entre la direction de la SNCF et les syndicats à la sortie d'une réunion de 7 heures. Hier, le patron de la SNCF ne veut toujours pas revenir sur le nombre d'agents présents dans les TER. Les autres titres, Adrien.
La répression sanglante des manifestants hier en Irak, au moins 40 morts et des milliers de blessés. La découverte d'un corps près de Strasbourg qui relance l'affaire Sophie Letan, disparue depuis septembre 2018. Et puis du rugby, première demi-finale des poids lourds, Angleterre contre la Nouvelle-Zélande, c'est ce matin à 10h.
L'invité de la matinale à partir de 8h20, ce sera le Patrick Kanner, le patron des sénateurs socialistes au Sénat. Donc.
France Inter.
Toujours pas d'accord entre la direction de la SNCF et les syndicats, comme un dialogue de sourds entre la direction de la SNCF et les syndicats donc.
Oui, chacun est resté sur ses positions malgré une réunion de près de 7 heures hier pour tenter de mettre fin à la crise. Pour le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, pas besoin de mettre un contrôleur avec le conducteur dans les TER, alors que les syndicats clament le contraire depuis l'accident de train à un passage à niveau dans les Ardennes il y a 9 jours et qui a poussé les agents à exercer leur droit de retrait. Hier, la direction a quand même mis sur la table quelques améliorations, des propositions jugées très insuffisantes par les syndicats, Manuel Ruffez.
Contrarier les organisations syndicales de la SNCF à la sortie de la réunion. Aucune de leurs propositions n'est retenue, en particulier celle de remettre un contrôleur dans tous les trains. Des opérations de maintenance sur le matériel roulant seront bien mises en œuvre, mais sur le long terme, si bien que pour Sébastien Mariani, de la CFDT Cheminots, demain, tout peut recommencer.
Un des sujets qui n'est absolument pas traité dans les propositions qui sont faites aujourd'hui par la direction est quand même le sujet de l'évacuation des voyageurs en cas d'accident. On a bien vu, dans l'accident, les voyageurs étaient quand même livrés à eux-mêmes. Si demain, on a, ce que je ne souhaite pas évidemment, la récurrence de ce type d'accident, on se retrouvera confronté à la même situation.
Il y a pourtant quelques avancées. 200 embauches, mais en police ferroviaire et en accueil dans les gares. La suspension du déploiement du système conducteur seul sur la ligne Nîmes-Narbonne. Ça ne résout rien, dénonce pourtant Xavier Brégaille de Sudrail.
On a face à nous une direction déconnectée des réalités. On l'avait vu vendredi dernier. On s'attendait un petit peu plus de sérieux ce vendredi-là. Bon là, ils sont hors sujet une nouvelle fois. On parlerait pas de sécurité ferroviaire, ça pourrait prêter à sourire. Mais là, les usagers et les cheminots attendaient autre chose. On n'est pas à l'abri d'une grève, clairement, oui.
La direction, elle, s'est félicitée à l'issue d'une réunion très sérieuse et approfondie.
Et la CGT, au contraire, relance l'appel général à manifester le 5 décembre prochain. Les discussions avec la direction reprendront tout de même lundi. Voilà un sujet qui fait consensus à l'Assemblée nationale. Les députés ont voté hier à l'unanimité un coup de pouce pour les aidants, ceux qui accompagnent au quotidien un proche malade ou dépendant, une position difficile, nerveusement et aussi économiquement pour plus de 8 millions de personnes en France. Mais ceux qui sont salariés vont pouvoir bénéficier dès l'année prochaine d'un congé de 3 mois avec indemnisation. Première mesure du plan de mobilisation en faveur des aidants promis mercredi dernier par Édouard Philippe. On y reviendra en détail dans le journal de 8h.
L'actualité, Adrien, c'est aussi l'Irak avec le bilan des victimes des manifestations antigouvernementales. Un bilan qui ne cesse de s'allonger.
40 morts et plus de 2000 blessés. Bilan des affrontements d'hier entre forces de l'ordre et manifestants. Mobilisation à Bagdad et dans le sud du pays contre la corruption du pouvoir. L'armée a réprimé les manifestants en tirant à balles réelles. Lucille Wasserman, correspondante de Radio France à Bagdad, était sur place et fait le point pour France Inter.
Le mouvement était attendu depuis 10 jours et il a été largement suivi ce vendredi à Bagdad. Dans les rues de la capitale irakienne, jusque tard dans la soirée, des milliers de manifestants demandaient une nouvelle fois la démission du gouvernement, la chute du régime, disaient-ils. Place Tahrir Square, l'épicentre de la contestation, des heurts ont rapidement éclaté dès la mi-journée à Bagdad. Les forces de sécurité ont lancé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes en direction des manifestants pour éviter notamment qu'ils n'atteignent la zone verte située de l'autre côté du Tigre. Ces manifestations spontanées et populaires avaient été largement soutenues au cours des derniers jours par l'influent leader chiite Moqtada Sadr. Ses partisans sont toutefois restés en retrait et n'avaient reçu l'ordre que de protéger les manifestants sans prendre pleinement part au mouvement. À l'instar des précédentes manifestations, la contestation reste donc sans leader politique en Irak et pourrait se poursuivre au cours des prochains jours. Bagdad, Lucille Wasserman, France Inter.
En Bolivie, c'est maintenant officiel. Evo Morales a de nouveau été élu président pour un quatrième mandat. Le tribunal suprême électoral l'a déclaré vainqueur hier. Son opposant, le centriste Carlos Mesa, ainsi qu'une partie de la communauté internationale, l'accuse toujours de fraude. Mesa, qui ne reconnaît pas le résultat des élections, et appelle encore à un second tour.
Retour en France avec l'affaire Sophie Le Tan, une affaire peut-être relancée par la découverte d'un corps.
Sophie Le Tan, c'est cette étudiante de 20 ans disparue en septembre l'année dernière, alors qu'elle devait visiter un logement pour suivre ses études dans le Bas-Rhin. Le principal suspect, Jean-Marc Rézère, qui avait posté l'annonce immobilière, est depuis mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration, mais il clame son innocence. Mercredi dernier, rebondissement, un corps démembré est retrouvé dans une forêt près de Strasbourg par la gendarmerie. Mais prudence, dit le parquet. Olivier Vogel.
C'est un promeneur, un gendarme qui n'était pas de service ce jour-là, qui a fait la macabre découverte. Un corps démembré alors qu'il cherchait des champignons en famille. Il a aussitôt prévenu ses collègues qui sont arrivés sur place, rejoints par les enquêteurs de la police judiciaire. Le parquet de Saverne a indiqué dans un communiqué que les éléments recueillis ont conduit les enquêteurs à envisager qu'il s'agisse du corps de Sophie Le Tan, mais qu'en l'état, cette hypothèse de travail n'était pas confirmée et que la plus grande prudence est requise dans l'attente du résultat d'investigations complémentaires, notamment les analyses ADN et l'autopsie. Grendelbruch se situe dans une zone montagneuse entourée d'épaisses forêts où le portable du principal suspect avait borné le lendemain de la disparition de Sophie Le Tan, mais les recherches et les battues citoyennes menées sur place étaient restées vaines.
Et les résultats des analyses ADN et de l'autopsie ne devraient pas être connus avant le début de semaine prochaine. Combien de Français meurent chaque année dans un accident du travail ? 530, selon le dernier décompte de la Caisse nationale d'assurance maladie qui date de 2017, auquel on peut ajouter les 264 morts sur le trajet du travail et les suicides. Des chiffres qui seraient pourtant en deçà de la réalité. Un professeur d'histoire de 33 ans de Montreuil a décidé d'imiter le journaliste David Dufresne avec son signalement sur Twitter des blessés des manifestations des Gilets jaunes. Lui recense tous les accidents du travail trouvés dans la presse ou sur Internet, Mathilde Dehimi.
Mathieu Lépine a ouvert son compte en janvier, après la mort dans la même semaine d'un jeune étudiant livreur pour Uber Eats et d'un ouvrier auto-entrepreneur de 68 ans ayant chuté du toit de la préfecture des Yvelines. Des morts qui n'apparaissent pas forcément dans des statistiques parcellaires, constate l'enseignant.
Il y a un flou statistique parce que les chiffres qu'on utilise sans arrêt dans le débat public sont issus du régime général de la sécurité sociale. Ils ne prennent donc pas en compte tous les salariés qui ne dépendent pas de ce régime, c'est-à-dire les agriculteurs, les auto-entrepreneurs, fonction publique. Et alors moi, je demande davantage de clarté sur tous ces chiffres.
Sur son compte, une carte recense les 830 signalements graves ou mortels qu'il repère sur Internet, souvent dans le BTP, l'agriculture, les transports ou l'industrie. Chaque texte débute par un « Allô Muriel Pénicaud » très commenté.
Pour tout un tas de personnes, un accident du travail, c'est la fatalité. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Bon, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez faire ? Tous les jours, j'ai des gens qui viennent me dire « Ah bah oui, mais c'est pas la faute d'un Muriel Pénicaud ». Je suis pas en train de dire que Muriel Pénicaud est responsable de tous les accidents du travail qui se déroulent en France. Maintenant, quand on est ministre du Travail, on peut aussi prendre ses responsabilités et les mesures qui s'imposent. Tous ces cas mis bout à bout, on est quand même en droit de se dire qu'il y a quelque chose qui va pas.
Ce compte est un engagement citoyen, pas politique ou syndical, explique Mathieu Lépine. Je recense des faits, dit-il, des faits sociaux, pas des faits divers.
Mathilde Dehimi du rugby pour terminer avec ce matin la Coupe du Monde au Japon. Coup d'envoi des demi-finales à 10h heure française. L'Angleterre face à la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks, double tenant du titre qui vise une quatrième couronne mondiale dans une compétition où ils sont invaincus depuis 2011. Eddie Jones, l'entraîneur anglais, en est bien conscient, ce qui n'empêche pas Steve Hansen, l'entraîneur néo-zélandais, de jouer l'humilité. Pour lui, la pression est sur les deux équipes. On l'écoute.
Nous avons pour but de remporter tous les matchs, que ce soit une demi-finale, un quart de finale ou juste un test match ordinaire. Oui, il y a bien sûr de la pression, car c'est un gros match. Ce serait très naïf de penser qu'il n'y a pas de pression des deux côtés. Vous devez le reconnaître publiquement, et puis c'est tout. Nous en sommes conscients et c'est la même chose pour l'autre équipe. Eddie Jones essaye de son côté d'évacuer cette pression en essayant de la mettre justement sur nous. Une fois encore, c'est bien joué, mais je ne me ferai pas avoir et mes joueurs non plus. Nous savons que nous sommes sous pression. Nous n'avons pas besoin d'Eddie Jones pour le savoir.
Steve Hansen, l'entraîneur néo-zélandais. Et puis demain, on n'oublie pas la deuxième demi-finale, Pays de Galles contre Afrique du Sud.
On n'oublie pas, c'était le journal d'Adrien Toffolet, Le Temps.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
avec un soleil plus vaillant qu'hier sur la moitié sud de Jean-Michel Golinski.
Ah, tout à fait Eric, après les brouillards plus fréquents ce matin près de la Garonne et du Val-de-Saône à la frontière allemande et quelques ondées probables en début de matinée sur la pointe sud de la Corse, le soleil sera éclatant dans la moitié sud et sur l'est du pays. En revanche, plus haut entre la Manche, la Loire et Champagne-Ardenne, le ciel est déjà assez voilé ce matin, il deviendra plus terne en cours d'après-midi, ceci avant une dégradation pluvieuse s'installant en seconde partie de journée par le Cotentin et la Bretagne, avec un vent de sud-ouest très désagréable près de la Manche. Les températures de l'après-midi, plus confortables qu'hier, ont marqué 18 à 20 degrés du nord de la Loire au nord-est et 22 à 25 dans la moitié sud.